Des biopics, des drames, de la musique et des blockbusters super-héroïques, c'est l'heure de parler des films qui débarquent en cette année 2024. Et après le bilan 2023, qui de mieux pour m'accompagner que Vanessa? Bonjour Vanessa.
Bonjour Clément.
Merci de répondre encore présente pour parler de cinéma. Quelle année de cinéma nous attend?
Une sacrée année, moi je dirais.
Ouais, alors on précise pour nos auditeurs et nos auditrices, on est le 2 février, l'année a déjà commencé, donc on va parler des films après le 2 février, mais aussi quand même un petit peu ceux qui sont déjà sortis.
Ouais, on reviendra un petit peu en arrière.
Ouais, alors pour ça, avant de commencer à vous dire quels sont nos 5 films les plus attendus de 2024, on va vous dire quels sont nos deux premiers coups de cœur de l'année, nos deux petits coups de cœur de janvier. Je te laisse Vanessa commencer, à toi.
Alors, je vais commencer avec Pauvre créature.
Oui, de Yorgos Lanthimos.
Yes! Oh là, super bien dit, parce que moi, j'aurais pas réussi.
Promis, il n'y a pas de montage pour cette séquence, je l'ai dit du premier coup.
Avec une Emma Stone époustouflante.
Peut-être dans son meilleur rôle.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'était incroyable ce film.
Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une aussi belle performance.
Et je pense qu'on l'a vu en même temps, parce qu'on s'est croisés dans la salle.
Mais oui, tout à fait.
Le 1er janvier. Ouais.
Avec un Mark Ruffalo aussi. Incroyable quoi, ouais. Brisé
et possessif,
à possessif. Ouais, possessif,
complètement fou. En fait, le pauvre créature, c'était un film qui, dans la bande-annonce, on ne savait pas trop de quoi ça parlait. Qu'est-ce que ça pouvait être? Ça avait l'air complètement barré.
Psychédélique.
Ouais, complètement psychédélique. Et au fait, la conclusion de tout ça, c'est en fait. Alors, excusez-moi, je suis très perturbé parce que je viens de regarder notre monsieur de la régie, Léo, qui était en train de manger. Je pensais qu'il faisait un geste. C'est juste sa bouche qui bouge dans tous les sens. J'étais parasité. Bonjour Léo.
Bonjour.
Et donc, pour Pauvre créature, en réalité, c'est un film sur l'appartenance du corps, sa place de femme. C'est un film féministe, voire même plus que Barbie. On revient à Barbie, décidément, c'est toujours le sujet. Non, c'est...
Non, je pense, complètement différent que,
complètement différent,
que Barbie.
Choquant même.
Très choquant.
Très visuel.
Vu le début, vu tout ce qui se passe, le fait que c'est vraiment de la naissance.
Oui, exactement.
Jusqu'à la femme qui se découvre et
qui s'émancipe.
Donc, c'est vrai que ouais, c'est très, très choquant de savoir comment ça se produit et tout à la Frankenstein.
Exactement, c'est un film de Frankenstein au féminin. C'est un film qui, je pense, je pourrais conseiller à tout le monde, mais quand même avec un peu de réserve. Faites attention si vous êtes sensible, si vous n'aimez pas tout ce qui est graphique. C'est un peu compliqué parce que Pauvre créature, n'hésite pas à vous montrer tout ce qui est, on peut dire, sale avec des guillemets.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais très fort, très très fort. Et puis, le père, Willem Dafoe...
Mais Willem Dafoe, qu'est-ce qu'il a, cet acteur? Il adore se grimer, il peut jouer n'importe
génial,
qui, il est incroyable.
Il est génial, il peut se mettre dans tous les rôles, il peut s'écorcher vif, il est incroyable. Et puis quand il raconte ce que son père lui avait fait et tout, c'est lui-même un Frankenstein en fait.
Ah oui, non, mais et même physiquement, sa transformation, enfin, moi ça ne me dérangerait pas de le voir jouer Elephant Man à l'avenir, il a vraiment
carrément
quelque chose, il est incroyable, incroyable. Pour ma part, le film que j'ai choisi, c'est Iron Claw. Le biopic sur ces 4 frères catcheurs qui ont brillé dans les années 80. Et au final, quelle surprise, parce que ça n'est pas un film sur le catch, c'est pas un film sur le sport, c'est un drame familial.
Mm-mm.
Et quel drame, parce que c'est un film qui nous amène d'étape en étape, et chaque étape est pire que la précédente, et on arrive à la fin du film essoufflé, en larmes, et on se dit, mon Dieu, quelle expérience. Et je pense que ça fait partie des expériences les plus importantes de ce début d'année, en tout cas pour ma part, avec Pauvre créature, c'est quand même un très très gros morceau de cinéma distribué par les studios A24, avec l'accent du sud-ouest, puisque là, en ce moment, ils ont la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, ils ont Iron Claw, donc à chaque fois, ils brillent par leur proposition de cinéma, et Iron Claw, c'est quand même une sacrée belle surprise que tu as vue également, Vanessa.
Oui, oui, et puis l'emprise du père, l'emprise négative et tout, qui est horrible.
Terrifiant, terrifiant. Ah oui, le père est fou, puisque on va pas trop spoiler, mais le père dans ce film, c'est quelqu'un qui a échoué dans sa vie professionnelle et qui
veut. En
tant que catcheur, et il veut voir sa réussite personnelle dans la réussite de ses propres fils, jusqu'à les mener à l'autodestruction. Donc c'est quand même quelque chose de terrible, de terrible. Et en plus de ça, alors je vous le conseille, si vous allez voir Iron Claw, qui est encore disponible dans les salles actuellement, allez lire après la véritable histoire.
Oui.
Vous allez avoir plus de détails, vous allez vous rendre compte que c'est encore pire que ce que vous avez vu au cinéma.
Moi, je trouve qu'ils ont été cool. Ils ont été assez soft et par rapport à la réalité.
Par rapport à la réalité, et encore, je veux dire, moi je suis sorti de la salle en me disant waouh, quel morceau. Je suis pas prêt, j'ai envie de le revoir, mais pas de suite.
Non,
pas de suite.
Non, moi non plus. Je vais mettre un peu de temps avant de l'assimiler et tout.
Et quand même, on peut souligner quand même quelque chose, Zac Efron qui, pour pas mal de gens, ça reste encore le minot d'High School Musical, mais il en a fait du chemin depuis.
Ouais, carrément pas. Non, là, franchement.
Métamorphosé,
incroyable.
Le corps, la presta, c'est quand même quelqu'un d'autre. Et, enfin, je sais pas, non, il est pas nommé aux Oscars cette année, si je me trompe pas, malheureusement.
Pas du tout.
Vraiment, il aurait mérité.
Mais il était pas sorti. Je crois qu'il sort maintenant, qu'il est sorti début.
Ouais, c'est un film de 2023. C'est un film de 2023 pour nos amis américains et pour nous.
Il a pas été nommé.
Je l'ai pas vu non plus. Quel dommage. Mais bon, voilà. Iron Claw, tout comme Pauvre Créature, c'est des films à voir en salle le plus vite possible. Ils sont encore là. Et évidemment, ça nous amène à parler du deuxième film. On vous le cache pas. En fait, on est d'accord avec Vanessa sur ce film. On a craqué pour ce film. Il s'agit, je te laisse le dire, Vanessa.
La couleur pourpre.
La nouvelle adaptation, adaptée du livre, du film de Steven Spielberg et de la comédie musicale de Broadway. Une nouvelle adaptation de La couleur pourpre qui, franchement, au premier abord, on pourrait se dire, mais quel intérêt de toucher à ce film-là, sachant que le film de Spielberg est culte dans la tête des gens. Pourquoi en faire une nouvelle adaptation? Souvent, c'est très bien que les remakes, et pardonnez-moi des termes, un peu casse-gueule, mais là, pas du tout. C'est une vraie surprise, c'est une ode à la vie, à la croyance, à encore une fois, féministe, à ces femmes qui veulent s'émanciper.
Ouais,
c'est un film qui se déroule dans une autre époque, mais qui est à la fois très moderne, et ça fait du bien. Et la dernière fois, on s'est appelé avec Vanessa. On vous raconte les off un petit peu. On s'est appelé avec Vanessa, on est resté une heure au téléphone à parler de La couleur pourpre, et quand j'ai raccroché, je me suis dit, faudrait peut-être le revoir quand même. Hein.
J'ai été le revoir, moi.
C'est vrai?
Ah ouais, je l'ai vu une deuxième fois. Mais d'ailleurs, le truc le plus fou, et je pense que c'est là où tu te dis que le film, il t'a vraiment pris, c'est quand tu sors de la salle et que tu dis oh, « je veux le revoir ».
Ouais.
T'as qu'une envie, c'est d'aller le revoir.
C'est quand même là qu'on détermine ce qui est un bon film pour nous. C'est-à-dire, c'est sortir de la séance et de se dire « voilà, il nous en reste quelque chose et on a envie de revivre l'expérience. » L'année dernière, c'était avec Wonka, en fin d'année, j'ai pas arrêté de le voir, le revoir, parce que ça a touché quelque chose. Et pareil, Iron Claw, lapsus. La couleur pourpre, c'est un film qui a plusieurs lectures. On peut le voir pour son aspect drame, on peut le voir pour son aspect sororité,
festif,
musical, coloré, pop. C'est quand même
gospel.
Top. Il y a une énergie dans ce film qui vraiment là, pour le coup, c'est un film que je conseille à absolument tout le monde.
Ouais,
vraiment.
Puis allez le voir au cinéma parce que quand vous voyez les gens bouger, claquer des mains,
taper
des pieds, enfin tout quoi.
Non, mais
et puis s'esclaffer, rire à des moments où tu dis ah tiens oui peut-être. Enfin franchement. Je trouve ça excellent et tu peux le voir aussi bien en version originale qu'en version française.
Ça y est, tu l'as vu en version française ?
Oui, j'ai vu les deux et j'ai vraiment aimé. Je remercie les comédiens de doublage qui ont fait la VF parce qu'elle est top.
Ils n'ont pas réadapté les musiques en VF ? Ils
non.
les ont gardées en VO.
Ouais,
d'accord,
ils
ok.
Ont
ce, qui est,
en VO, ouais.
ce qui est plutôt pas mal comme idée parce qu'elles
non,
étaient
non.
déjà incroyables et les prestes en
elles
VO.
Sont, elles sont top, quoi.
C'est,
franchement.
C'est du haut niveau.
Oui, puis en plus, tu as deux personnes qui sont dedans qui ouais. ont fait le spectacle de Broadway. Qui est la transposition donc pour le film et quand tu vois le boulot qui a été fait par ces actrices phénoménal quoi
extraordinaire
surtout Danielle Brooks
oui.
qui est nommée aux Oscars second rôle
et c'est mérité
ouais enfin moi je croise les doigts
ouais,
franchement c'est ma chouchou hein, donc on en parlera une autre fois mais alors franchement ce film il est à découvrir au cinéma. N'hésitez surtout pas.
C'est la pépite de ce mois de janvier et il est encore en salle. Donc allez-y, nous y sommes. Nous parlons maintenant des films qui arrivent après le mois de février. Il fallait en sélectionner 5. 5, attention, sur 11 mois de l'année. Ça a été un exercice très compliqué.
Colossal.
Vanessa, je t'en prie, à toi l'honneur.
Eh bien moi, je vais commencer par un film que j'attends parce que j'ai adoré les tout premiers Planète des singes.
Oh mon Dieu, ça a l'air
et
incroyable.
Franchement, là, la planète des singes, le nouveau royaume, transposé avec le tout premier qu'on avait vu de la planète des singes en film, le tout premier film.
Oui, des années 60. Alors en fait, pour que les gens comprennent, parce qu'il y en a tellement des planètes des singes, on s'y perd un petit peu. Celui-ci va se dérouler une centaine ou 200 ans après les événements de la dernière trilogie qui est sortie en salle entre les années 2010 et 2020. Et alors, Je les ai toujours pas vus, ces films-là.
Non, sérieux.
Et tu sais que je me les garde parce que j'ai appris qu'il y avait ce film et je me suis dit, ça y est, c'est un renouveau. Il va se passer quelque chose. J'ai besoin.
Et c'est la fin. C'est normalement, c'est la fin de la trilogie là.
Et oui, et c'est. J'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir et en plus, me semble-t-il que ce film-là n'est pas réalisé par celui qui avait fait la trilogie, mais par celui qui a fait les films Labyrinthe. Donc
oui, c'est ça. De Wes Bell, c'est ça?
Wes Bell. Et oui. C'est Radio Occitanie avec un petit peu d'accent. Mais oui, donc La Planète des Singes, ça va être, je pense aussi, ouais, une très, très grosse surprise, un blockbuster de taille.
Et... avec le retour des humains. Oui. Et les humains, c'est les singes qui sont au pouvoir et les humains qui sont les esclaves.
Ah là, non, mais j'ai tellement...
On revient au tout premier. Et j'attends ça, mais avec impatience, parce que bah voilà, celui des années 60, il m'avait ravi.
Ouais.
Et on avait tous adoré avec le casting qu'il y avait. Donc là, j'attends de voir qui il y aura au casting, parce que ça promet.
Et écoutez, alors si vous êtes devant votre ordinateur, regardez l'affiche. Je la trouve magnifique, là, le singe sur son cheval et tout. Comme ça, c'est super beau. C'est une des affiches que je préfère cette année.
Moi, c'est le 8 mai 2024 qui sort.
On sera dans les salles. Et alors même, je pense que ça fait déjà un petit peu débat, le film sort, si je dis pas de bêtises, le même jour que Mad Max, le préquel de Mad Max.
Ah oui, c'est ça, Furiosa.
Furiosa, donc tout le monde est là en train de se dire, lequel on va voir, ça va être...
Bah, les deux.
Et est-ce qu'ils veulent pas nous refaire un Barbenheimer cette année?
C'est ça, mais avec Planète des Singes et Mad Furiosa.
Ah, c'est dur à faire. je n'y arrive pas. Pour moi, alors, j'ai triché. On va être honnête.
Et t'arrêtes pas de tricher. J'espère que c'est un film au cinéma, hein. Pas une plateforme. Hein.
C'est que des films au cinéma.
Bon, très
c'est
bien.
Que des films au cinéma. Mais vu que c'est moi qui anime l'émission, j'ai le droit. Alors, j'ai choisi, j'ai mis trois films ensemble parce que ça reste quand même le même genre.
Non, mais tu triches.
Mais non, non. Non, j'ai des vraies raisons.
J'hallucine.
Cette année, au cinéma, on aura le biopic de Bob Marley, d'Amy Winehouse et de Charles Aznavour.
Ok, bon, d'accord, je suis d'accord.
Donc, c'était vraiment pour faire une catégorie biopic, pour parler de, voilà, du genre biopic en général. J'ai pas une passion pour Bob Marley ou pour Amy Winehouse ou même pour Aznavour, mais cette idée de retracer la vie de gens extraordinaires qui nous ont livré quand même des albums.
Oui, t'as oublié le biopic d'une vie.
Alors, mais c'est pas musical.
Mais c'est pas musical.
Mais ça fait partie de mes grosses attentes. J'ai pleuré devant la bande-annonce et tout. Mais je l'ai pas mis dans mes cinq grosses attentes.
Bon, on en parlera.
On en parlera, mais j'ai très très hâte de le voir. Oui, avec Anthony Hopkins. Et oui, alors effectivement, donc on a deux biopics, la Bob Marley qui arrive très très vite, qui sera en avant-première au Pathé Wilson le 13 février.
Yes.
Et Amy Winehouse qui arrive en avril, pareil. Quand on regarde la bande-annonce, on peut se dire, mais la formule, on la connaît par cœur, c'est toujours la même chose. On sait très bien que c'est une jeune fille ou un jeune homme qui part de rien, il va lui arriver un destin incroyable, des belles rencontres, des mauvaises rencontres, il va y avoir la drogue, l'alcool, tout ce genre de choses autour, mais... c'est ce qu'on aime. Et Charles Aznavour, la particularité, c'est qu'il est réalisé par Grand Corps Malade.
Grand Corps Malade.
Et
ouais.
C'est Tahar Rahim qui tient le rôle. Et des échos que j'en ai eus, apparemment, il est extraordinaire. Il est possédé, habité par ce rôle-là. Et je pense que ça va être le grand film français de cette fin d'année. Et j'en mets ma main à couper. Voilà. Vanessa.
Moi, j'ai eu des échos par Soufiane Guerab.
Oui.
Qui a travaillé sur les deux autres films de Grand Corps Malade et qui sera justement sur celui-ci. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Donc, j'ai hâte de découvrir, comme toi, Aznavour.
Trop bien. Et on passe au quatrième, du coup.
Eh bien oui, si tu veux. Moi, je vais parler de Vice Versa 2. Ah bah oui, parce qu'on a eu la version enfant, la petite fille qui découvrait ses émotions et tout. Et là, elle rentre dans l'adolescence et on retrouve les mêmes émotions avec en plus celle de l'adolescence. Eh ben je vous dis, c'est pas un cadeau. Hein. Mais ça donne vraiment envie. La bande-annonce est sortie, la petite bande-annonce est sortie, mais alors franchement, ça donne super envie avec le petit orange qui est arrivé, anxiété.
Oui.
Et... avec tous ces bagages, avec les autres émotions, j'ai très très envie de découvrir les autres émotions.
J'avais adoré le premier Vice Versa.
Génial.
Et particulièrement un personnage là qui avait une trompe d'éléphant. Comment il s'appelle ce personnage?
La trompe d'éléphant?
Et c'était un petit personnage gros, rose, avec une trompe d'éléphant.
Ah, celui qui avait tout le temps peur?
Oui, j'aimais tellement. J'aimais tellement ce personnage et je trouve que c'était comme... hyper hyper malin et ingénieux de la part de Disney de créer un univers où on a humanisé les émotions et finalement je pense que faire un Vice Versa 2 ça fait sens et tant mieux qu'il le fasse maintenant, que ça soit pas un film précipité par le succès du premier, puisqu'il arrive, si je dis pas de bêtises, 9, j'adore dire cette phrase, si je dis pas de bêtises, le gars qui se mouille pas, 9 ans après Vice Versa 2015 déjà, ça passe trop vite.
Oui, puis bah, la petite a grandi. Donc voilà, ça nous prouve aussi. Et puis l'adolescence, croyez-moi, c'est pas une sinécure pour certains. Donc ouais, ça donne envie. Là. C'est vrai qu'il y avait joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Et là, ouais, nous avons anxiété qui débarque avec toutes ces valises et toutes ces nouvelles émotions qu'ils vont donner.
Ça va être trop bien. Bah, écoute, moi, je pense que pour le quatrième, je vais faire comme toi. Je vais prendre une suite pour être... tout à fait honnête avec vous, je l'ai changé au dernier moment, là, il y a un quart d'heure de ça, parce qu'on a découvert l'affiche et une image hier. Il s'agit de la suite de Beetlejuice, qui s'appelle Beetlejuice, Beetlejuice. C'est réalisé par Tim Burton de nouveau, avec Michael Keaton dans le rôle principal, Winona Ryder qui revient, et évidemment, Jenna Ortega qui est rentrée dans l'univers de Burton, et qui est, ça paraît évident, et Monica Bellucci, qui est la nouvelle compagne de Burton, voilà, c'est sa nouvelle muse, on va la voir, je pense, dans les prochains projets à partir de maintenant. Je ne porte pas le premier Beetlejuice dans mon cœur, c'est pas un film que j'adore, mais c'est un film qui a quand même marqué un moment de ma vie quand j'étais dans ma période Tim Burton adolescent. Et c'est vrai que Beetlejuice, ramener Michael Keaton, je trouve que c'est excellent. Pour moi, quand je l'avais vu en Batman dans The Flash, je sais que c'est un film qui n'est pas trop apprécié, The Flash, mais revoir Michael Keaton, qui quand même a 71 ans, 72 ans, refait ce genre de personnage, mais moi, ça me fait rêver. Et si j'ai rajouté le film dans la liste aujourd'hui, c'est parce que hier, il y a eu une photo making-of qui est apparue de Tim Burton sur le plateau de tournage de cette suite de Beetlejuice, et tous les décors sont faits main. Il n'y a pas d'image de synthèse. Super. Je me suis dit, on revient à la magie des années 80, à ce qui est palpable. Et justement, j'ai envie de voir ça.
C'est ce qu'il voulait, Tim Burton.
Oui, bien sûr.
Il voulait qu'on retrouve cette magie des années 80.
Et j'ai très, très hâte de voir le trailer. Là, on se base sur un film qui n'a même pas de bande-annonce. Bah, un petit peu comme... Je ne sais pas si La Planète des Singes a eu sa bande-annonce déjà.
Si.
Il y a eu sa bande-annonce.
Si, d'accord. Ça y est, elle vient de sortir. Là.
Ah, d'accord. Bah, écoute, moi, c'est Beetlejuice 2. J'y vais vraiment à l'aveugle en me disant, bon, je fais confiance à Tim Burton. Il y a Michael Keaton dans le rôle principal, c'est possible. C'est possible que ça soit une suite qui fonctionne. Parce que, en fait, Tim Burton, c'est quand même quelqu'un qui a forgé ma cinéphilie quand j'étais adolescent. C'est vraiment le Edouard aux mains d'argent, tout ça. Et après, je l'ai un peu lâché quand il est rentré dans l'ère du numérique avec Alice au Pays des Merveilles, tous ces films qui sont arrivés un peu après, Dumbo. Et là, j'ai l'impression qu'il revient à la source, puisqu'on est dans une époque un petit peu malade de nostalgie et qu'on a besoin de revoir les suites. J'ai très, très, très hâte de voir Beetlejuice, ouais. Qui sortira normalement en
novembre,
septembre. Je crois qu'ils l'ont redécalé.
Ah, ils l'ont redécalé.
Ouais,
c'était
septembre.
Novembre.
Ouais, c'était novembre, quelque chose comme ça. Bah écoute, il sortira en dernière partie
peut-être
d'année.
Peut-être en octobre pour Halloween.
Ah, c'est peut-être possible. Si tu veux dire quelques mots pendant que je cherche la date de sortie.
Non, mais c'est vrai que moi, je l'attends aussi avec impatience. J'étais plus jeune quand je l'ai vu. Et moi, il m'a marqué avec ce monstre des sables et tout. Le fait de cette porte qui donne sur un univers complètement différent. Ces deux personnages qui réalisent qu'ils sont morts et qui doivent vivre une vie assez hallucinante avec des effets spéciaux incroyables pour l'époque. Je parle pour l'époque.
Pour l'époque, ouais.
Maintenant, on en rit. Mais non, j'ai hâte de voir le nouveau Beetlejuice.
Je viens d'avoir la date. Il sort aux États-Unis le 6 septembre, donc certainement le 4 septembre pour nous.
Ah, peut-être.
Donc, ça va arriver assez vite. Et même, écoute Vanessa, c'est spontané, c'est comme ça, c'est le direct. Je te propose quelque chose. Une émission spéciale Tim Burton.
Avec plaisir.
On l'a pas encore fait, et non. Je pense qu'on a plein de choses à dire sur Tim Burton.
Ouais,
parce que
Tim Burton, ouais.
Ça, je pense, ça a marqué la vie de tout le monde, donc on a besoin de parler de Edouard aux mains d'argent, de tout ça. Donc je le sens bien, on part sur une émission de Tim Burton quelque part dans l'année, peut-être pour la sortie de Beetlejuice, justement.
Peut-être, ouais,
quand ça arrivera. Voilà, on lance les infos comme ça. On a fait le quatrième, on passe au troisième.
Moi, c'est La Bête, avec Léa Seydoux.
Oui.
De Bertrand Bonello.
Avec George MacKay.
Sur l'intelligence artificielle.
Tout à fait, ouais, exactement.
J'ai été prise sur un film comme ça, sur Netflix, où il y avait justement cette intelligence artificielle, mais plus clone.
Oui.
Et là, je veux voir ce que ça peut donner. J'ai pas vu la bande-annonce. J'ai rien vu. J'ai lu un petit peu le synopsis, mais vraiment, moi, ça me donne très, très envie. Je l'ai raté en avant-première. Donc, et puis George MacKay, Guslagi Malanda, si je me trompe pas.
Bravo.
Mais franchement, non, ça. Moi, j'ai, voilà, cette intelligence artificielle, ses dangers, tout ça, et ses avantages. J'ai très envie de voir ce monde-là.
La Bête, petite anecdote un petit peu triste, c'est le dernier projet signé de Gaspard Ulliel. Ouais. Il n'a pas eu le temps de le tourner. C'est Georges Maquet qui a été remplacé, qui a pris sa place, qui a pris son rôle. Et très surprenant, j'ai regardé la bande-annonce il y a quelques jours, Georges Maquet, qu'on a pu voir dans 1917, dans plein de films comme ça, joue en français dans la bande-annonce.
Ah, oh, c'est génial!
Il a un petit accent et tout, donc c'était certainement le rôle de Gaspard Ulliel qui devait être 100% français. Et voilà, on pense à lui, c'était quand même un acteur extraordinaire.
Ouais, il manque, ouais, c'est ouais, clair.
Il est parti si jeune, 37 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, très très jeune, ouais. Mais bon, comme quoi, hein.
Les accidents
qu'on... On l'oublie pas, c'est vrai qu'il devait faire une série aussi.
Oui, qu'il a commencé à tourner. Ouais. Et, ça a été repris
par Neil Schneider, si
par
je
Neil
me trompe
Schneider,
pas.
Ouais, tout à fait. La famille Schneider, de ils sont trop nombreux.
Non, du sang.
Je sais pas. Un truc sur Canal+, non?
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon, si vous l'avez, les auditeurs, auditrices, dites-le nous en commentaire.
On va se faire taper sur les doigts. De l'or et du sang, je crois. C'est avec Vincent Lindon aussi.
Ouais. Et là, on passe donc... Pour moi, c'est le troisième film. J'ai choisi... Alors, particulier. J'ai choisi Young Woman and the Sea. Ça vous parle pas. C'est de Joachim Rønning. C'est avec Désiré de Lay. Désiré de Lay qu'on a vu dans le rôle de Rey dans Star Wars, qui était dans, il y a pas très longtemps dans le film La vie rêvée de Miss Fran. Et qui joue dans ce film qui parle d'une histoire vraie de la première femme à avoir traversé l'océan à la nage. C'est un film qu'elle a tourné il y a 2 ans. Elle s'est vraiment, vraiment investie. Il devait sortir sur Disney+, et il y a quelques jours, Variety a annoncé que les projections test ont été tellement élogieuses qu'il va quitter la plateforme Disney+, il n'y arrivera même pas, et va passer directement par la case cinéma et devrait sortir en mai. Donc c'est pour ça que je me suis permis de l'ajouter dans la liste, parce que c'est un film de cinéma. Young Woman and the Sea, qui sera très certainement traduit par La jeune fille et la mer, et qui va être un biopic, je pense, passionnant sur cette femme qui a traversé l'océan au début du XXe siècle, et ça a l'air magnifique, magnifique, magnifique.
Ça donne très envie, ça. Moi, je ne connaissais pas du tout.
Ouais, c'est, y a pas encore eu de promotion, il n'y a rien. Mais vu que j'aime beaucoup Désiré de Lay, je suivais son actualité de près. Je me suis dit, ça fait un moment qu'elle travaille dessus. Quand est-ce que ça arrive? Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, ils en ont parlé. Et j'ai hâte de découvrir la bande-annonce et bien entendu le film qui s'annonce déjà comme un petit chef-d'œuvre.
J'imagine. Moi, j'ai très envie de découvrir L'Empire.
C'est de qui?
Qui est complètement psychédélique.
Ah mais oui, c'est le Star Wars français
oui,
avec Luchini.
Oui, c'est ça, c'est le Star Wars français avec de Bruno Dumont, avec Lina Koudry, Anna Maria Bartolomé, Camille Cotin et bien d'autres. Et en fait, c'est complètement une parodie de Star Wars. C'est totalement psychédélique et le casting hyper intéressant et la vision complètement décalée de la guerre des étoiles. Moi, j'ai trop envie de voir ça.
Et alors, précisons, c'est un film de science-fiction
oui.
Avec les beaufs de France, quoi. Enfin, ouais. C'est vraiment... Ils sont partis trop loin. J'ai vu la bande-annonce, on avait l'impression que c'était un mélange entre les tuches.
Mais c'est ça, c'est un mix entre plusieurs trucs. Et moi j'adore, j'ai vraiment envie de voir ce film complètement décalé. Quoi.
Je vais être honnête avec toi, j'ai vu l'affiche il y a quelques jours et j'ai dit, non mais c'est un montage, c'est pas vrai, ça. Ils vont pas faire ça.
Non, moi, c'est vrai, c'est ça qu'ils vont faire. Et ouais. C'est cruel et déjanté et moi j'ai trop trop envie. Quoi.
Ouais, mais t'imagines, Jeff Tuche avec un sabre laser, bah, ils l'ont fait. Quoi,
c'est une vision caustique.
Ouais, bah, voilà. Non, ouais, mais complètement.
Totalement délire. Je pense qu'il fallait le faire un jour ou l'autre et voilà, ils l'ont fait. Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, oh non, j'ai trop envie de le voir. Donc, du coup, pari réussi. En plus, le casting me fait vraiment envie et je me demande ce qu'ils vont faire, quoi.
Ah ouais,
je me demande ce qu'ils vont faire.
Complètement.
Moi, enfin, voilà, c'est le 21 février 2024. Hein, on n'a pas très loin à attendre.
Ah non, mais j'ai trop hâte. On y va ensemble, si tu veux.
Ah ouais, on y va ensemble.
Comme ça, on va se marrer.
Ah ouais, moi,
tu viens avec nous, Léo, voir
tu
ce
viens
film.
Avec nous.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça me tente à 100%.
Pas du tout envie.
Si, si, en vrai, je pense que ça va être très drôle.
Ça va être très
ouais,
drôle.
J'ai envie de laisser le cerveau tranquille et ouais, profiter un peu.
Tu vas le laisser complètement.
Et puis t'embêter avec ça, parce que c'est vrai que je sais que t'es fou de Star Wars. Donc
ah ouais. Et des beaufs de France également.
Et des beaufs de France. Donc voilà. Non, ça donne très très envie en tout cas.
Ah oh, la vache. Alors,
il fallait bien que je te le sorte celui-là.
C'est vrai, c'est vrai. Pour le deuxième film, j'ai choisi. On en avait parlé durant le bilan parce que j'avais choisi Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan dans mes tops. Je choisis le nouveau film de M. Night Shyamalan qui s'appelle Trap. C'est avec comment il s'appelle? s'appelle, je l'ai oublié, l'acteur de l'effet papillon qu'on a revu il n'y a pas longtemps.
Mais non, tu peux pas, tu peux pas
Josh,
oublier.
Josh
Hartnett.
Josh Hartnett, oui, c'est ça. qui tient le rôle principal, qui est un père de famille, et ils vont avec sa fille dans une salle de concert, et ils sont pris en otage dans la salle de concert.
Encore ?
Ouais, encore. Et en fait, ça va être un huis clos dans la salle de concert. Comment s'en sortir ? Mais c'est réalisé par le monsieur qui a fait Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village. Donc il y a moyen qu'il se passe quelque chose, et c'est toujours, et je le répéterai chaque jour à la radio s'il le faut, c'est mon réalisateur préféré. Donc dès que c'est son film, de toute façon, qu'importe le sujet, j'y vais. Donc Trap, un huis clos dans une salle de concert avec Josh Hartnett, on signe et ça devrait arriver normalement cet été.
Tu fonces quoi ?
Je fonce complètement, voilà. Est-ce que, avant d'annoncer le film qu'on
attend... On a des mentions honorables.
On a des petites mentions honorables, je t'en prie.
Ah ouais, ouais bah One Life.
One Life, que j'ai
il
très...
Il va sortir le 21 février, Une Vie.
Avec Anthony Hopkins, qui est une histoire assez méconnue d'un monsieur qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a aidé des enfants...
À sauver des enfants juifs.
Et plusieurs années après, il est sur une émission de télé dans les années 70-80, et il n'a pas de nouvelles de ses enfants, et la présentatrice pose une question au public. Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui ont été sauvés par ce monsieur, et il y a tout le public qui se lève.
Et ça, c'est beau.
Et waouh, quand tu vois la bande-annonce, tu pleures un peu.
C'est tiré de son histoire vraie. Quoi. C'est
tiré d'une histoire vraie. Les images
sont
disponibles sur YouTube, hein, si vous êtes curieux. Et je pense que ce qui me plaît déjà, c'est au-delà du sujet. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale, c'est un puits sans fond. J'ai l'impression qu'on pourra toujours raconter des histoires là-dessus. Et preuve que la zone d'intérêt qui donne une autre vision du hors-champ. Et là, avec Une Vie, c'est en plus de ça campé par Anthony Hopkins. C'est Anthony Hopkins, qu'est-ce qu'il choisit bien ses rôles. La dernière fois, on l'avait vu dans The Father, où il était dans ce pauvre personnage qui perdait un petit peu l'esprit. Et là, je pense qu'il va quand même sortir peut-être son plus grand rôle en termes d'émotion. Donc, Anthony Hopkins dans un film tragique sur la Seconde Guerre mondiale avec des enfants sauvés. Waouh, enfin, ça y est, j'achète de suite quoi. Donc, et ça sort normalement le 21 février, quelque chose comme ça.
Oui, alors attends, One Life, c'est le 21 février, ouais,
voilà,
en effet.
Avec Anthony Hopkins. Donc moi aussi, je le mets dans mes mentions honorables, tout à fait Vanessa, c'est un beau choix. On va changer un peu de registre, moi dans mes mentions honorables, j'ai choisi, alors pourtant je n'aime pas spécialement, je n'ai même vu aucun des deux premiers, mais je vais aller voir Deadpool 3 au cinéma.
Non.
Tout simplement parce qu'il s'agit du film multivers de la Fox et Disney. Et dans
avec
lequel,
les X-Men.
Avec les X-Men qui rentrent dedans. Hugh Jackman rejoue Wolverine alors que son personnage est, attention spoiler, décédé dans le film Logan. Mais là, il revient. Tout le monde revient. Et ça va être le je sais pas, j'allais dire un terme très grossier, donc je vais pas le dire, mais ça va être l'association de plusieurs mutants ensemble.
Oui, c'est ça en fait. Non, mais t'as raison. Hein.
Donc sacré casting, mais complètement. Il y a
un petit chouchou, hein, un de tes petits chouchous dedans.
C'est qui mon petit chouchou?
T'as pas un petit chouchou dedans qui joue, qui doit jouer normalement un acteur, un grand acteur?
Non, il y a qui?
Non. Y a pas un grand acteur dans Deadpool 3 ?
Je me suis pas trop renseigné, peut-être que tu l'as. Dis-moi.
Ah non, c'est peut-être dans Captain America, attends.
Harrison Ford.
Oui, Harrison Ford, c'est dans Captain America.
Dans le prochain Captain America. Oui, c'est un de mes chouchous, ça c'est vrai.
Ça c'est un de tes chouchous.
Mais peut-être qu'il apparaîtra dans Deadpool.
Ah, on ne sait pas. Non, mais je sais qu'il y a des acteurs qui sont prévus, mais il y a beaucoup de surprises qui vont arriver.
Il y a beaucoup de surprises. De toute façon, avec le multivers, maintenant tout est possible. On a vu le succès de No Way Home, ce que ça introduit. Maintenant, on peut justement surprendre les gens dans la salle. Et en fait, on y va maintenant. C'est pour ça que Deadpool, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais ce que je porte dans mon cœur, c'est la salle. C'est la salle de cinéma où justement on vit des trucs comme avec Spider-Man No Way Home et les trois Spider-Man qui reviennent et sentir justement l'énergie de la salle hurler quand ils voient ça. Moi, je veux revivre ça absolument. Donc,
ouais, c'était pareil dans Flash. Hein. Flash, il y en avait plein qui... Waouh.
Oui, à la fin du film, avec tous les caméos, effectivement.
Ah bah oui, oui, oui.
Non, c'est... mais j'aime ça. C'est mon ambiance stadium dans les salles de cinéma. Donc voilà. Et,
moi, j'ai une autre mention honorable.
Vas-y.
C'est Roadhouse. Le 21 mars 2024, avec un certain Jack Gyllenhaal.
Oui, où il est tout musclé, là.
Oui, alors, c'est le remake du film avec Patrick Swayze.
Ah oui.
Et c'est un film qu'on regardait quand on était ado. Voilà, machin. Je me souviens, je le regardais en internat et j'adore ce film. Je le trouve magnifique. Et voilà, il y avait des karatés, il y avait un beau mec, il y avait une histoire d'amour, il y avait voilà, il y avait des magouilles, un peu de mafia, tout ça, dans une petite ville perdue. Et moi, je trouve que j'ai envie de voir Jack Gyllenhaal dans le rôle de Patrick Swayze.
Ah, mais il est quand même irremplaçable, hein, Patrick Swayze. Mais Jack Gyllenhaal, c'est quand même un très, très grand acteur, donc je ne doute pas de sa performance. Et j'ai vu effectivement les affiches, tout ça.
Alors, ça sortira pas au cinéma, par contre, ça sortira sur Amazon Prime Video. Mais c'est dans mes mentions honorables, donc j'ai le droit.
Voilà, on a vraiment réécrit les règles de ce truc.
Non, mais c'est juste une mention honorable. Bon, après, une autre, si tu veux, hein, mais Le Comte de Monte Cristo, par exemple.
Oui, effectivement, avec Pierre Niney.
Avec Pierre Niney, qui promet avec un sacré casting aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est bien, ça ramène aussi la vieille littérature au cinéma et la modernise. On l'a vu avec le succès des Trois Mousquetaires volet 1 et 2. Donc oui, très curieux de voir ce film. Lui sortira vraiment en fin d'année, me semble-t-il. Hein,
oui, lui sort en novembre.
Ouais, il sort en novembre. Et bah tiens, t'en as rajouté un, j'en rajoute un qui
allez,
lui...
Vas-y.
Je sais pas s'il sort sur Netflix au cinéma, puisque ça n'a pas encore été annoncé. Donc ça reste quand même en suspens. Ça s'appelle The Life of Chuck, la vie de Chuck. C'est réalisé par Mike Flanagan. Mike Flanagan qui avait réalisé les séries à succès, Hunting of Hill House, tous ces trucs-là sur Netflix, qui est très porté sur l'horreur fantastique, qui a fait Doctor Sleep au cinéma, qui a fait Jesse, plein de films comme ça. Et qui, cette fois-ci, sort un film avec Mark Hamill, avec l'acteur qui joue Loki, je m'en souviens plus, Tom Hiddleston, qui tient le rôle principal. Et la particularité de ce film, c'est qu'il sera monté à l'envers. Ça parle d'un personnage, de sa mort jusqu'à sa naissance, un peu comme Benjamin Button, un homme âgé de 39 ans qui meurt, et on va remonter le film en arrière. Et ça va être très beau, parce que c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King, cette histoire.
Waouh !
Et le réalisateur a dit dans une interview, moi ce que je veux avec cette nouvelle de Stephen King, et avec mon film, donc la vie de Chuck, c'est rendre un film... puissant, émouvant, comme on en a eu avec La Ligne Verte et Les Évadés. Pour lui, c'est ses inspirations et il veut essayer de faire, entre guillemets, le nouveau événement façon Ligne Verte et Les Évadés, avec une histoire qui va nous émouvoir. Et je ne sais pas encore si c'est un film qui va passer par la case Netflix, parce qu'il sort beaucoup de choses sur Netflix, mais si c'est un grand film, il y a vraiment possibilité que ça passe par la case cinéma, et je lui souhaite. Voilà, donc La Vie de Chuck de Mike Flanagan.
Bah pour le moment, de manière, ils ne le disent pas. Hein, si ça sort au ciné, rien. Si c'est plateforme. Pour le moment, on ne sait pas.
Mais
donc,
très curieux. Je pense qu'on peut parler maintenant du film qu'on attend le plus cette année.
Ouais, alors moi, je l'ai déjà vu, j'avoue. Oui, je l'ai vu au festival Cité Ciné. Je me suis pris un uppercut par ce film. Plusieurs uppercuts, d'ailleurs.
Ok.
Il m'a couché, ce film, c'est Green Border.
Ouais. Qui arrive
incroyable.
Bientôt.
Ah oui, qui arrive le 7 février, là.
Ouais, tu vois.
Ouais, bientôt. Là, cette semaine, ça y est, vous pouvez aller le voir au cinéma.
C'était ta plus grosse attente de l'année ? Ou c'est, tu t'es découvert un...
Non, j'avais vraiment été pris par ce film, en fait, quand j'avais vu qu'il était au Festival Cité Ciné. Mm-hmm. J'ai dit, je peux pas le louper. C'est de Agnieszka Holland qui avait fait le film L'ombre de Staline.
Oui.
Et moi, j'avais vraiment adoré ce film. Je l'avais trouvé vraiment très fort, complet. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu son nom, la réalisatrice, je me suis dit non, je peux pas le louper. Il pouvait s'appeler autrement. Il fallait que je voie ce film. Donc, c'était vraiment une attente. Et quand j'ai au Festival Cité Ciné, ça m'a donné l'occasion de le voir en avant-première, de pouvoir rencontrer l'équipe du film. Et non, moi, je me suis pris des uppercuts. En fait, je suis passée par plusieurs émotions et ça m'a tellement pris que mon corps a réagi tout seul aux émotions que je ressentais en voyant ce qui se passait. Parce que c'est quand même fort, parce que c'est la réalité de ce qui se passe à cette frontière Biélorusse-Pologne où les gardes frontaliers prennent les migrants pour des balles de ping-pong. Ils se les renvoient, mais pas gentiment. C'est vraiment très, très dur. Et c'est quand tu vois ça, t'es vraiment pris. Et on voit les visions donc, des migrants, la vision d'un garde frontalier qui se dit ce que je fais, c'est pas bien, mais il faut que je le fasse puisque c'est mon boulot. Alors, est-ce que c'est sa conscience ou son devoir qui va prendre les choses en main ? Les activistes qui viennent en aide aux migrants, mais qui peuvent pas aller dans la zone d'exclusion, parce que s'ils vont dans la zone d'exclusion, eh bien, ils sont arrêtés et ils sont condamnés. Et une jeune femme, Julia, qui va être... Enfin, une femme, plutôt. Julia, qui va être prise, qui va voir tout ce qui se passe et qui va prendre corps avec les activistes et même au-delà. Et je trouve que À chaque étape, on vit des choses vraiment très fortes. Il y a des moments très, très durs, d'émotions intenses, de moments de sacrifice, de moments de... horribles, où tu peux tourner les yeux, mais tu regardes, parce que c'est vraiment un film, je le disais hein, tout à l'heure pour la zone d'intérêt que je présentais, mais là, c'est vraiment un film essentiel, nécessaire, très dur, très... je vous dis, ça m'a mis, moi, KO.
Ouais, les spectateurs de ce festival ont adoré. Très bon festival, d'ailleurs.
Ouais.
j'y travaille. Mais oui, Green Border, effectivement,
fait
partie...
Il a gagné le prix.
Oui, tout à fait.
Du jury.
Exactement, donc, exactement. Mais oui, bien sûr, c'était pas... C'était un gros morceau de cinéma.
À la Mostra de Venise aussi. Il a gagné le prix à la Mostra de Venise. C'est pas n'importe quoi. Et moi, je pense que c'est un film qui a fait bouger les choses. Et d'ailleurs, en Pologne, on me disait, enfin, avec les acteurs, mais il y a eu 800 000 personnes qui se sont déplacées pour voir le film, alors que le gouvernement, les trucs, disaient non, allez pas voir le film, machin. Et ça a fait bouger les choses parce qu'il y a eu les élections juste après. Et du coup, ça a donné une autre version. Et c'est plus ceux qui devaient passer qui sont passés. Donc, je trouve ça excellent.
Mais sachant que tu l'as vu, je suis obligé de te poser la question. Quel est le film que tu n'as pas vu, que tu attends le plus ? C'est La Planète des Singes ?
Le film que je n'ai pas vu, que j'attends le plus, oui, c'est La Planète des Singes après, ouais.
D'accord.
Ouais. Mais celui-là, oui, mais je l'ai vu, mais j'ai envie de le revoir.
Eh bien, écoute, Green Border.
Parce que je suppose que comme je me suis pris des uppercuts dans la tête et que j'ai été scotché, il y a des choses que j'ai dû louper. Donc, j'ai envie de le revoir et je le conseille à 100%.
Green Border, c'est noté. Et pour moi, le film que j'attends le plus en cette année 2024 est une comédie musicale. Et
Encore.
Et il s'agit de Joker Folie à deux de Todd Phillips.
Ah, mais oui.
Qui est la suite de Joker sorti en 2019, maintenant. Me semble-t-il qu'il est passé par la Mostra de Venise. Et pour faire
c'est
le
ça.
Lien. Et avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Et cette fois-ci, il aura son Harley Quinn campé par Lady Gaga, grande chanteuse, grande interprète, moi que j'ai adoré dans The Star Is Born, que je suis allé voir en concert au Stade de France il y a 2 ans et c'était incroyable. Et l'idée même que la folie se transforme en comédie musicale, que les protagonistes se mettent à chanter et danser, je pense qu'on peut amener, enfin c'est pas moi qui vais le faire, mais je pense que Todd Phillips va amener le film de super-héros vers une dimension qu'on n'a jamais visitée, c'est-à-dire transformer, déjà que l'antagoniste soit le protagoniste de l'histoire, c'était déjà une chose, mais alors qu'en plus de ça, ils se mettent à chanter et à danser, on est quand même très loin des Spider-Man en collant, on est sur un autre univers. Donc ouais, Joker Folie à deux, je pense que c'est un film qui va marquer cette année, qui va pas mal diviser, parce que pas tout le monde est friand de comédie musicale. Toi, t'es...
Moi, j'adore les comédies musicales, seulement je suis pas d'accord avec l'actrice qui a été choisie, mais après, c'est ma façon de voir les choses, parce que moi, pour moi, Harley Quinn, c'est Margot Robbie.
Ben, pour moi, le Joker, c'est Jack Nicholson.
incroyablement.
Ben, forcément.
Donc, c'est vrai que j'aurais plus vu Margot Robbie dans ce rôle-là, mais après, Lady Gaga, dans Star Is Born, elle était incroyable. Donc,
sachant que
je comprends aussi le choix, puisque c'est une comédie musicale.
Et c'est un autre univers.
Qu'on cherche,
la Margot Robbie, la Margot Robbie et la Harley Quinn de Jared Leto, du Joker. Donc,
c'est
pas les mêmes du tout. Donc, là, il fallait bien trouver l'Harley Quinn de Joaquin Phoenix. Et je pense que Lady Gaga est un très bon choix, parce que si on regarde ses clips, si on regarde ce qu'elle fait, elle est complètement déjantée, quoi. Elle est folle sur scène. Elle sait jouer la folie. Donc, c'est une fille qui, quand on la voit calme, elle fait petite blonde, qui paye pas de mine. Et tout d'un coup, elle se rentre dans son personnage, elle devient complètement exubérante, folle. Et la folie de Joaquin Phoenix, la folie de Lady Gaga, la musique, tout ça, ça peut vraiment créer un sacré événement. Donc, j'attends vraiment, vraiment la bande-annonce et la bande originale au passage. Et voilà, c'est Joker Folie à deux, le film que j'attends le plus en cette année 2024. Et voilà, on peut le dire, on a fait le tour pour cette année 2024. Il y a bien plus de films que ça, évidemment, et je pense qu'on va en parler durant le reste de l'année. Peut-être même une émission sur Tim Burton, voilà, qu'on a imaginé durant cette émission. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Vanessa de ta compagnie.
Merci beaucoup Clément.
Merci Léo pour la régie, et j'espère qu'on ira avec toi voir le film
avec plaisir. C'est noté, c'est prévu.
C'est noté. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir écoutés. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine émission sur le cinéma. Mmh.
inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane.